Deutsche Welle, Économie et développement.
Le méga barrage hydroélectrique d'Inga 3, un vrai serpent de mer. Le projet sur le fleuve Congo risque encore d'être repoussé. On s'y intéresse dans la seconde partie de ce magazine Économie et développement. Mais tout d'abord, prenons la direction de la Casamance, première région de production de noix de cajou au Sénégal, qui voit le prix de l'anacarde flamber. La filière qui génère 30 milliards de francs CFA par an, selon le ministère du Commerce, est mal organisée, d'après les autorités. Elles veulent que les opérateurs étrangers d'Inde ou de Mauritanie travaillent davantage avec les acteurs locaux. Et les femmes, nombreuses dans le secteur, veulent aussi que leurs droits au foncier soient davantage respectés. Notre correspondant à Ziguinchor, Mamadou Alpha Diallo, va nous expliquer cela.
Désormais, les opérateurs étrangers ne pourront plus acheter directement les noix d'acajou Borchan en Casamance. C'est du moins l'une des mesures qui va être appliquée par la Commission nationale, créée sur instruction du ministre sénégalais du Commerce, qui a présidé à Ziguinchor une rencontre spéciale regroupant l'ensemble des acteurs de cette filière, devenue le fleuron économique de la région. Bassamba Diédiou, secrétaire général de la Chambre de commerce de Ziguinchor, nous parle de cette mesure.
L'idéal, c'est que ceux qui viennent d'ailleurs, et nous voulons qu'ils viennent très nombreux, ceux qui viennent donc d'ailleurs, que ce soit de l'Inde, de la Mauritanie et d'autres pays, pour acheter la noix brute et l'exporter, doivent travailler avec les acteurs, les opérateurs économiques nationaux ou qui sont au niveau local. Mais on a vu que la plupart vont Borchan acheter et donc mettre entre parenthèses les opérateurs économiques et transportent et partent. Donc ça, c'est pas une bonne manière de faire. Et donc, on pense que l'organisation qui va être mise en place avec la définition des règles du jeu va obliger celui qui exporte doit nécessairement travailler avec un collecteur et n'ira pas directement Borchan acheter la noix d'anacarde brute.
À préciser que cette décision d'organiser cette filière fait suite à une flambée sans précédent des prix cette année du fait d'opérateurs étrangers qui ont fait grimper les prix pour avoir le maximum de noix. Ainsi, le prix du kilogramme est passé de 800 à 1250 francs CFA. Conséquence, beaucoup d'opérateurs comme Fally Coly n'ont pas fait campagne.
Nous ne faisons pas campagne pour la simple raison que le prix de l'anacarde est très élevé. Nous sommes des transformateurs, nous ne sommes pas des traders. Et apparemment, tous ceux qui exportent vers l'Inde ont les mêmes problèmes que nous. Et actuellement, sont obligés de suspendre leur achat. C'est trop cher. C'est passé du simple au double. Pour vous donner une indication, il y a quelques années, un sac de riz s'échangeait avec un sac et demi d'anacarde. Et aujourd'hui, un sac d'anacarde est échangé avec 5 sacs de riz. Vous voyez un peu le rapport. Donc c'est trop cher. C'est pourquoi nous avons arrêté les achats. Oui.
Les détenteurs locaux d'unités de transformation ont aussi fait les frais de cette fluctuation des prix. Ils n'ont pas pu approvisionner leurs unités en noix qui constituent l'une de leurs principales matières premières. Et pour résoudre ce problème, Ramadiata, une députée de la région, plaide pour l'octroi de terres aux femmes qui, pour l'essentiel, sont les principales détentrices de ces unités, afin qu'elles puissent produire elles-mêmes leurs matières premières.
Si on veut que ces unités-là fonctionnent 24 heures sur 24 durant toute l'année, il faut que ces femmes-là se lancent maintenant à avoir leur propre exploitation et pouvoir continuer à le faire. Et c'est possible, avec la réforme foncière, de voir les femmes organiser et leur donner ces hectares. Quand on parle de développement, on ne peut pas parler de développement à l'absence du foncier. La matière première, d'abord, c'est le foncier et ensuite, maintenant, c'est l'anacarde même. Au niveau des groupements de promotion féminine, les femmes, toujours, elles se disent on ne peut pas continuer à demander des unités. Une fois les unités sur place, on n'arrive pas maintenant à faire fonctionner ces unités à cause de cela. Elles nous réclament à chaque réunion, nous disent que la matière première est trop cher. Ça coûte trop cher. On ne peut pas, si ça continue comme ça, on risque de fermer les unités. Alors qu'on sait que ces femmes-là sont en train de faire de très bonnes choses. Et même le comité que le ministre a demandé d'installer, il faudra penser à ces femmes-là, qu'il y ait assez de femmes dans ce comité-là pour pouvoir défendre et voir la filière, cette filière. Parce que c'est une filière porteuse, c'est une filière qui génère aujourd'hui des millions. La plupart des gens qui travaillent dans ça, c'est les femmes. Il faut que ces femmes-là tirent les bénéfices de cela.
À noter que cette flambée du prix de la noix d'acajou ici en Casamance a eu un effet d'entraînement en Guinée-Bissau voisine, où le prix du kilogramme fixé initialement à 500 francs CFA en début de campagne par le gouvernement a atteint la barre des 1200. Ce qui a obligé, comme ici en Casamance, la plupart des exportateurs de renoncer à la campagne de cette année. Mamad Alpha Diallo, Ajigan Sor pour la Deutsche Welle.
Le mois dernier, Kinshasa a annoncé vouloir une offre unique de la part d'un consortium chinois et de son concurrent espagnol en lice pour le contrat de construction du méga barrage d'Inga 3. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait pourtant annoncé vouloir désigner le concessionnaire avant la fin de l'année 2016 pour un lancement des travaux en 2017. Alors comment en est-on arrivé là ? L'histoire de ce barrage est longue. Il existe deux centrales vieillissantes entrées en service entre 1972 et 1982 aux chutes d'Inga et plusieurs projets de nouvelles installations ont été évoqués. L'actuel a été lancé en 2011 avec plusieurs partenariats. L'Afrique du Sud s'est ainsi engagée à acheter la moitié de la production électrique. Pourtant, les choses n'avancent pas. Écoutez les explications du docteur Agathe Maupin, chercheur associé au laboratoire LAM, les Afriques dans le monde à Bordeaux et au centre de recherche sud-africain SAIA.
Les différentes étapes pour permettre à ce barrage de commencer à être construit ont pris énormément de temps. D'une part, parce qu'il s'agit déjà d'un accord bilatéral entre deux pays, donc il a fallu que l'Afrique du Sud et la RDC signent un traité, mettent en place, donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière, mettent en place une agence de gestion pour construire ce troisième barrage. Et par ailleurs, le gros problème, avant même de penser constructeur, c'est comment financer ce projet dans le contexte de la République démocratique du Congo.
Vous l'avez dit, l'Afrique du Sud a signé un partenariat avec la RDC pour récupérer une partie de la production. En fait, ce barrage, ça aidera peu la population, alors qu'il y a moins de 10% de la population congolaise qui a accès à l'électricité.
Alors, c'est justement un des arguments qui est avancé par la société civile congolaise, qui a réussi à s'organiser suffisamment au niveau d'une association, de plusieurs associations de la société civile, pour engager des discussions avec le gouvernement congolais pour justement demander à ce qu'une part plus importante de la production d'Inga soit dédiée à la population congolaise. Après, bien sûr, ce n'est pas uniquement une question de production, c'est une question aussi d'accès. Le réseau de distribution d'électricité en RDC est vraiment très très faible, ce qui explique aussi le faible taux de desserte en électricité du pays. Ce n'est pas uniquement une question de production, c'est aussi une question d'avoir un réseau suffisamment étendu sur un territoire qui est immense.
Est-ce que la solution pourrait venir, par exemple, d'unités plus petites pour, qui demandent moins de financement et qui pourraient être plus accessibles à la population ?
Alors c'est là où justement, à partir de 2014, le gouvernement congolais a aussi décidé de développer davantage la législation autour justement de qui peut produire et qui peut distribuer de l'électricité. Donc depuis 2014, il existe une nouvelle loi sur l'électricité en République démocratique du Congo et le gouvernement congolais a aussi commencé à développer un certain nombre de projets qui sont plutôt de la toute petite hydro en fait, hein, donc le développement de micro-projets pour justement essayer de développer l'accès à l'électricité dans les zones les plus éloignées où il n'y aura jamais, en fait, ou en tout cas pas avant de très nombreuses années, un vrai réseau de distribution de l'électricité.
Vous l'avez rappelé, la RDC a de gros problèmes de financement. Ça concerne aussi, par exemple, l'organisation des élections. Là, ça concerne aussi les grands projets. Pourtant, il y a du potentiel pour des entreprises étrangères, par exemple. Il y aurait une possibilité de grands contrats, de travail pour ces entreprises. Mais le climat des affaires n'est pas forcément très bon en RDC. Est-ce que là, vous voyez aussi une volonté du gouvernement, peut-être, d'essayer d'attirer encore d'autres investisseurs ?
Je pense que, de toute façon, un pays comme la République démocratique du Congo a tout intérêt à essayer à tout prix d'attirer des investissements internationaux ou de la part de compagnies privées, y compris au niveau de la région, y compris des compagnies sud-africaines, pour investir dans le pays. En termes de climat politique, effectivement, à l'heure actuelle, c'est assez difficile, puisqu'il n'y a pas forcément de lisibilité sur les prochaines élections congolaises. À partir du moment où il y aura vraiment des dates de mise en place et un processus lancé pour la tenue de nouvelles élections, le climat des affaires sera forcément plus favorable qu'à l'heure actuelle où pour l'instant la situation n'a pas encore été complètement éclaircie en ce qui concerne les futures élections.
Et en Afrique du Sud, comment réagissent les autorités ? Parce qu'il y a eu ce partenariat qui a été signé. Est-ce qu'on s'impatiente du côté sud-africain ?
Alors, côté sud-africain, en fait, c'est un des partenariats et un des projets auxquels l'Afrique du Sud participe. Ce n'est pas le projet principal. Et en termes de développement des énergies renouvelables ou d'autres sources d'énergie en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain a un projet complet pour le pays qui n'est pas dépendant de ce projet avec la RDC.
Merci à la chercheure Agathe Maupin et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez réentendre ce magazine, rendez-vous sur notre site dw.com/français, puis allez dans la rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Kostmann au micro. Au revoir et à la semaine prochaine.